pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique pour le troisième dimanche de Carême. La Pâque des Juifs est proche et Jésus monte à Jérusalem. Il trouve dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de colombes et ceux qui sont installés pour changer la monnaie. Faisant un fouet de cordes, tous ils les chassent hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Des changeurs, il répand la monnaie et renverse les tables. À ceux qui vendent les colombes, il dit
« Ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. »
Ses disciples se souviennent qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévorera. » Les Juifs répondent donc et lui disent
« Quel signe nous montres-tu pour faire cela ?»
Jésus répond et leur dit
« Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. »
Les Juifs disent donc «
C'est en 46 ans que ce sanctuaire a été construit, et toi, en 3 jours, tu le relèveras ? »
Mais lui est en train de parler du sanctuaire de son corps. Quand il fut relevé d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il disait cela. Ils crurent à l'écrit et à la parole que Jésus a dite. Comme il se trouve à Jérusalem, à Pâques, pendant la fête, plusieurs croient en lui en voyant les signes qu'il accomplissait. Mais lui, Jésus, ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on témoigne sur l'être humain. Il connaissait lui-même, en effet, ce qui est dans l'être humain.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Bonjour André.
Bonjour Georges. Comme voilà un récit évangélique bien connu, souvent discuté, même disputé. Les uns sont heureux de voir un Jésus qui ne craint pas d'être violent pour condamner les pratiques de gros sous autour de l'autel. Si Jésus revenait aujourd'hui, disent ceux-là, il ferait un bon ménage dans nos églises pour qu'elles redeviennent des lieux de prière et de pauvreté. Les autres, un peu gênés par ce fouet de cordes et ces tables renversées, qui leur semble loin de l'image d'un Jésus doux et humble de cœur, tentent de justifier une sainte colère. Qui a raison? Quel sens devons-nous donner à cet épisode? Le caractère violent de l'événement est-il un élément important dans cet enseignement?
Eh bien, regardons d'abord à quel moment de la vie de Jésus se situe ce geste. On sait que les récits de Matthieu, Marc et Luc le situe lors de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem quelques jours avant son arrestation. En effet, les récits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, sont construits sur un schéma en 2 épisodes. D'abord la prédication en Galilée, puis la montée à Jérusalem où Jésus sera condamné et mis à mort. Et la purification du temple y intervient lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, soit le soir même de ce jour que nous appelons dans la liturgie le jour des rameaux, et cela donc dans les récits de Luc et de Matthieu, soit le lendemain de ce jour dans le récit de Marc. Dans ces récits, le geste d'éclat de Jésus va indisposer profondément les autorités religieuses et cela va déclencher le processus de l'arrestation. Eh bien, la majorité des spécialistes admettent la vraisemblance de cette date, juste avant l'arrestation donc de Jésus, pour la purification du temple. Mais le récit de Jean place l'événement au début du ministère. Alors pourquoi? Eh bien, les textes qui encadrent le récit peuvent nous expliquer le choix de Jean. Notre texte va faire suite aux noces de Cana, et il sera ensuite suivi des entretiens entre Jésus et Nicodème, puis entre Jésus et la Samaritaine.
Que nous disent ces textes?
Eh bien, les noces de Cana manifestent que les rites juifs de purification, qui sont symbolisés par les jarres d'eau, vont faire place au vin nouveau. Ce sera le vin du repas de fête avec le Messie, le vin nouveau de son enseignement. Comme le dira Jésus plus tard, à vin nouveau, outre neuve. à Nicodème, qui est un juif pieux, maître dans la Torah, Jésus va demander de renaître, de naître nouveau, pour pénétrer le mystère du règne de Dieu, pour devenir fils du Père divin. C'est un peu comme lui demander de devenir cette outre neuve, afin de pouvoir accueillir la nouveauté de l'enseignement de l'Évangile. Quant à la Samaritaine, eh bien Jésus lui enseigne ce que sera le nouveau sanctuaire, le temple véritable.
Crois-moi, femme, une heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Mais une heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que le Père cherche. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et vérité.
Eh bien justement, lui, Jésus, qui adore le Père en esprit et vérité, va être le sanctuaire, le temple nouveau. Ainsi, ces quatre séquences, Cana, Nicodème, la Samaritaine et notre texte, ont un message identique. La sagesse nouvelle qui se révèle en Jésus ne peut être reçue que dans un être qui est nouveau. Le temple de pierre doit faire place au temple de chair, comme le disait déjà le prophète Ézéchiel.
Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Eh bien, c'est dans ce contexte que va se situer la purification du temple.
Donnons pour commencer quelques précisions sur le cadre du récit. Pourquoi y a-t-il tout ce commerce autour du temple?
Le temple de Jérusalem avait été construit par le roi Salomon au Xe siècle avant notre ère. Il avait bien sûr été détruit par les invasions étrangères, puis reconstruit, puis détruit à nouveau. Et c'est le roi Hérode le Grand, en l'an 4 avant notre ère, qui a décidé la reconstruction du temple, et celle-ci dure encore au moment où se situe notre récit. Le temple comprend deux grandes parties, un parvis qui est accessible à tout le monde, et le sanctuaire proprement dit, où ne peuvent pas entrer ceux qui ne sont pas juifs. Le parvis est une vaste esplanade qui sert de place publique. Sous les portiques qui l'entourent, les gens se rassemblent pour écouter les maîtres qui enseignent. C'est au centre de l'esplanade que se situe le sanctuaire, le lieu des offrandes et de la prière, avec en son cœur le Saint des Saints, qui est une chambre fermée par un rideau et qui est le haut lieu symbolique où Dieu demeure. Toute la journée, les prêtres du temple immolaient des animaux sur le grand autel des sacrifices. Les fidèles se devaient de faire l'offrande d'animaux, soit pour obtenir le pardon de leurs fautes, soit pour remercier Dieu, soit encore pour se purifier comme la femme après un enfantement. Les animaux étaient égorgés au pied de l'autel et les parties les plus grasses des victimes y étaient brûlées et le reste de la viande de l'animal était partagé entre le prêtre et la famille qui faisait l'offrande pour être mangé lors d'un repas sacré. Ces animaux, eh bien, ils étaient normalement vendus au marché aux bestiaux qui se trouvait situé en dehors de la ville, soit dans la vallée du Cédron, soit sur les pentes du mont des Oliviers. Ce marché était d'ailleurs organisé par le Sanhédrin, l'assemblée des notables, mais il semble qu'au temps de Jésus, le grand prêtre Caïphe ait voulu faire concurrence à ses marchands et qu'il ait permis l'ouverture d'un marché sur le parvis même du temple. Le Talmud rapporte aussi qu'au moment des fêtes, on pouvait trouver un débit de vin et d'huile sur le parvis même du temple. Enfin, des changeurs d'argent étaient aussi à la disposition des fidèles. En effet, la monnaie impériale, frappée à l'effigie de l'empereur qui est un païen, était interdite au temple. Tout juif fidèle était donc invité par la Torah à faire le pèlerinage de Jérusalem au moins une fois l'an, lors des grandes fêtes juives comme celle de la Pâque ou de la Pentecôte. Et comme de nombreux pèlerins venaient de pays étrangers où se trouvaient des colonies juives, les changeurs troquaient donc les monnaies étrangères contre la monnaie du temple. C'est dans ce cadre qu'il faut situer le geste prophétique de Jésus.
Thank you. quoi va consister cette purification du temple? S'agit-il simplement de débarrasser le parvis des marchands d'animaux?
Non, le récit nous invite à aller plus loin, puisqu'il nous parle de destruction et de reconstruction du sanctuaire. Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. Alors, comment comprendre cette phrase de l'Évangile? Eh bien, une première réponse, Jésus a pu puiser la source de son inspiration dans le courant prophétique. Les prophètes, en effet, avaient rappelé fréquemment que les sacrifices ne valent rien s'ils ne sont pas accompagnés d'une vie qui pratique l'amour du prochain. Écoutons Isaïe.
Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur? Les offrandes de bélier, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux et des boucs, je n'en veux plus. Cessez d'apporter de vaines offrandes. Purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la droiture. Faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve.
La purification doit donc atteindre les cœurs même des fidèles et leur façon de vivre. L'expérience de l'exil, d'ailleurs au VIe siècle avant notre ère, avait marqué profondément la foi juive. Privés du temple et de ses sacrifices, les Juifs avaient alors été conduits à vivre un culte plus spirituel. « C'est l'amour que je préfère et non vos sacrifices », avait dit le prophète Osée. Les sacrifices et les offrandes ne mettent pas en effet automatiquement en communion avec Dieu. C'est dans le cœur de l'être humain que Dieu veut faire sa demeure. L'amour de Dieu et du prochain, et notamment du pauvre, voilà le vrai culte qui honore Dieu. Une offrande faite sans amour est une injure à Dieu, et l'on ne peut prétendre honorer Dieu si l'on déshonore celui qui est son fils et sa fille. Celui qui prétend aimer Dieu sans aimer son frère, sa sœur, celui-là se ment et ment à Dieu. Comme le dira plus tard la lettre de Jean, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain, cela vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices, dira Jésus. On ne peut offrir un sacrifice de communion avec Dieu si on ne se trouve pas en communion avec tous ses frères et ses sœurs.
Si tu apportes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère.
Oui, une offrande à Dieu faite avec intérêt pour acheter sa faveur, c'est aussi une sorte de blasphème. Or, nous sommes bien souvent tentés de demander des choses à Dieu en échange de quelques prières, de quelques dons ou d'un cierge qui brûle. L'amour de Dieu ne saurait avoir aucune monnaie d'échange, car tout amour ne fleurit que dans la pure gratuité. Deuxième piste pour comprendre cette phrase, c'est que les traditions juives attendaient de Dieu et de son Messie la purification du temple. À l'époque de Jésus, cette purification du peuple et du temple était l'objet d'une ardente attente. Certains juifs, comme les Esséniens, avaient même déserté le temple parce qu'ils disaient que les prêtres qui y officiaient étaient des impies. En effet, ces prêtres n'étaient plus choisis dans la descendance légitime de Sadoc. Et ils étaient en effet plus ou moins complices des autorités romaines auxquelles ils devaient leur propre nomination. Ces prêtres d'ailleurs étaient généralement assez haïs par la population car ils tiraient des profits exorbitants des sacrifices et des offrandes faites au temple. Or, tous ceux qui souffraient de cette situation pécheresse espéraient que Dieu y mettrait fin lors de la venue d'un roi messie. Les prophètes avaient souvent ranimé cette espérance. Écoutons Malachie au chapitre 3.
« Voici, j'envoie mon messager. Il aplanira le chemin devant moi. Soudainement, il entrera dans son sanctuaire, le maître que vous cherchez. Il purifiera les fils de Lévi. »
Le prophète Zacharie soulignait aussi qu'en ce jour-là, il n'y aurait plus de marchands dans la maison du Seigneur. Tout un courant religieux qui s'exprime dans des écrits apocalyptiques décrivait d'ailleurs ce nouveau temple comme venant du ciel. Cela pour marquer que cette purification serait essentiellement l'œuvre du Seigneur Dieu. Le temple actuel serait détruit et le nouveau temple ne serait pas fait de mains humaines, comme le dit le livre d'Enoch.
Je vis, le Seigneur des brebis a porté une nouvelle maison plus grande que la première, et toutes les brebis étaient dans la maison.
Troisième piste, ce nouveau temple rassemblera toutes les brebis de Dieu. Certains textes bibliques voyaient ce nouveau temple comme un centre mondial de la foi au Dieu unique. Tous les peuples montraient alors à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Ainsi s'exprime le livre d'Isaïe, « Ma maison sera appelée maison de prière pour tous les peuples ». C'est d'ailleurs avec ce verset d'Isaïe que Jésus explique son geste dans le récit de Marc. Michée avait aussi décrit ce rassemblement de tous les peuples autour du temple de Jérusalem.
Des peuples y afflueront. Des nations nombreuses se mettront en marche et diront « Venez, montons à la montagne du Seigneur. Il nous montrera ses chemins et nous marcherons sur ses routes. » Oui, c'est de Sion que vient l'instruction et de Jérusalem la parole du Seigneur.
Quatrième piste, enfin, d'autres traditions disaient que ce nouveau temple serait le Messie lui-même. Le récit de Jean ne parle pas de maison pour tous les peuples, mais Jésus y parle de la maison de son Père. Et Jésus va se situer lui-même au cœur de cette maison qu'est le temple. Et même un autre passage de Jean, au chapitre 7, nous dira que ce nouveau temple, c'est Jésus lui-même.
Le dernier jour de la fête, Jésus se tint dans le temple et se mit à proclamer « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. » Comme le dit l'Écriture, « De son sein couleront des fleuves d'eau vive. »
Ce passage fait sans doute allusion à un texte d'Ézéchiel où le prophète voyait jaillir une nouvelle source du temple de la Jérusalem renouvelée. Eh bien, ici, c'est de Jésus lui-même que jaillit la source d'eau vive. On sait que dans la culture biblique, l'eau, qui est la source de la vie, est le symbole de la Torah, cette règle de vie divine. La parole de Dieu est comme l'eau, ce qui fait vivre le fidèle. Vous puiserez de l'eau avec allégresse aux sources de salut. Eh bien, ce verset d'Isaïe était commenté ainsi par le Targoum.
Vous recevrez une nouvelle instruction avec joie de par les élus au cœur droit.
Vous puiserez de l'eau et devenu, vous recevrez une nouvelle instruction. L'instruction, en effet, là, remplace l'eau. Et le Targoum traduira le texte d'Isaïe, « Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau » par « Quiconque souhaite l'instruction, qu'il vienne et apprenne ». Un texte samaritain faisait aussi l'identification entre l'eau et la Torah.
Dans les eaux profondes, une source agréable est la vie éternelle. Tenons-nous dans la connaissance pour boire de ces eaux. Nous avons soif des eaux de la vie.
Jésus se présente donc comme celui qui apporte un enseignement nouveau qui procure la vie divine.
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, celui-là n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle.
Cette eau vive donnée par Jésus, eh bien c'est la parole du Père divin, et elle donne à ceux qui s'en nourrissent la vie éternelle.
Mais pourquoi Jésus peut-il se présenter comme la vraie parole du Père?
Parce que Jésus vit en plénitude, selon même l'Esprit de Dieu. Bien plus, son enseignement ne sera pas purement et simplement enseignement, la lettre de la Torah, mais son enseignement sera lui, Jésus lui-même, comme le frère, l'ami de ceux qui deviennent ses disciples. Il va entrer en communion avec eux, il va leur communiquer son esprit. Son esprit se joindra à leur esprit et il les initiera à une vie nouvelle, à une vie divine. L'enseignement de Jésus est dans son disciple comme une force de vie, une source d'agir. C'est ce qu'Ézéchiel avait dit, « Je mettrai en vous mon propre esprit, je vous ferai marcher selon mes directives. » Eh bien, ce que Ézéchiel avait dit de Dieu, l'Évangile le dit de Jésus lui-même.
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous irons à lui et nous ferons en lui notre demeure.
Ainsi, la purification du temple ne consiste pas seulement à vider le parvis des marchands, mais à permettre la venue d'un culte spirituel. Un culte qui fera de chacun des fils et des filles de Dieu le sanctuaire de Dieu en ce monde. C'est ce qu'exprimera magnifiquement l'apôtre Paul dans la lettre aux Éphésiens.
Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus comme pièce maîtresse. C'est en lui que toute construction s'élève pour former un temple saint dans le Seigneur Dieu. C'est en lui que vous êtes intégrés à la construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit. Quel signe nous donnes-tu pour agir ainsi?
La réponse de Jésus peut étonner. Détruisez ce sanctuaire en 3 jours, je le relèverai. D'abord, comme souvent dans le récit évangélique de Jean, la discussion va progresser par quiproquo. Les Juifs parlent du sanctuaire de Pierre et Jésus, lui, va parler du sanctuaire qui est sa propre personne. Beaucoup des compatriotes de Jésus, on le sait, attendaient ce renouvellement du culte. Et précisément, l'expression « en 3 jours » est une expression biblique qui est reliée à l'espérance d'un renouveau. On trouve cette expression dans le prophète Osée au chapitre 6.
« Venez, retournons vers le Seigneur Dieu. Il a déchiré, il nous guérira. Il a frappé, il pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous fera revivre. Le 3e jour, il nous relèvera. » Et nous vivrons en sa présence.
Le 3e jour, il nous relèvera. Eh bien, le prophète Ézéchiel fait vivre aussi cette espérance d'un relèvement.
Fils d'homme, ses ossements, c'est toute la maison d'Israël. Nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. C'est pourquoi, prophétise, ainsi parle le Seigneur. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez.
Jésus parle le langage des prophètes qui rappelle que Dieu peut toujours faire revivre ce qui s'est détruit. Et il lui faut peu de temps, 3 jours, pour le faire. C'est bien sûr un chiffre symbolique. Mais le chrétien qui entend cette réponse de Jésus peut, lui, penser maintenant à la mort-résurrection du Christ.
En quoi cette destruction de Jésus par la mort est-elle reliée au relèvement du sanctuaire de Dieu pour en faire un sanctuaire qui sera nouveau?
Lisons un passage du psaume 69, d'où est tirée la réflexion des disciples sur l'amour brûlant pour ta maison qui me dévore.
C'est pour toi que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage, que je suis un étranger pour les fils de ma mère. Car l'amour brûlant pour ta maison me dévore, l'insulte de tes insulteurs tombe sur moi.
La purification de la foi, la prédication d'un culte plus spirituel, un commentaire nouveau de la Torah, voilà l'amour brûlant qui dévore le Christ, et voilà aussi ce qui ne pourra pas se faire sans risque. Car ce message va déranger les autorités religieuses, il va déranger tous ceux dont la vie est déjà sclérosée dans la routine. Oui, regardons comment Jésus a apporté un renouveau par sa prédication. Jésus dira que Dieu a une préférence pour le pécheur qui se reconnaît tel et s'ouvre à l'amour, plutôt que pour ceux qui pratiquent leur religion pour se faire bien voir de Dieu et des hommes. Jésus dira que le cœur des petits s'ouvre souvent à l'amour plus facilement que le cœur de ceux qui se croient forts et bons. Jésus ne méprisera personne, pas même la prostituée, et il dira de l'une d'elles qu'elle est plus proche du cœur de Dieu que le pharisien qui suit avec ostentation, mais sans amour, fidèlement la Torah. Jésus remettra en cause la pratique extérieure des offrandes au temple si elle ne s'accompagne pas d'un cœur toujours en cheminement pour purifier son amour du prochain. Une telle morale, un tel message est facilement rejeté par les autorités qui craignent à leur pouvoir et elle insécurise aussi les tièdes et les médiocres qui ont peur de leur propre liberté. Jésus le sait déjà, car il connaît le cœur pécheur de l'être humain, il connaissait lui-même, en effet, ce qui est dans l'être humain, nous dit l'Évangile. Jésus ira cependant jusqu'au bout de l'amour, parce qu'il croit à la force du pardon miséricordieux, et ce jusqu'au bout de l'amour sera sa mort sur la croix pour le pardon. Oui, seul le pardon peut renouveler les cœurs qui se sont endormis dans une vie sans amour. Il y a des morts qui sont en effet source de résurrection. Pensons au père Pinard du Rwanda, à Monseigneur Clavery d'Oran en Algérie, qui ont choisi de vivre au milieu de ceux qui se déchirent et s'entretuent pour dire la puissance toujours nouvelle de la réconciliation. C'est la fidélité de Jésus à cette puissance de renouveau qui le conduira à la résurrection. C'est la certitude de cette victoire de la vie sur la mort, de l'amour sur la loi, du pardon sur le mal, qui est la force qui lui permet d'accomplir ce geste de purification du temple. et aujourd'hui. On le voit, le récit évangélique de la purification du temple est bien loin de nous centrer sur la question de la violence de la colère de Jésus. Il nous entraîne au contraire à nous poser la question de ces violences secrètes que notre péché fait quotidiennement en nous-mêmes, violence à la vie véritable. Pour vivre en vérité, il nous faut tuer en nous tous les germes de mort spirituelle. En effet, est-ce qu'on n'est pas comme mort lorsque l'on condamne son frère et qu'on se refuse à espérer en lui? N'est-on pas comme mort lorsqu'on est en train de se détruire, en s'enfermant dans le refus du pardon et dans le ressentiment? N'est-elle pas déjà une fois morte, celle qui n'est qu'habitude, sans vrai amour? Et au contraire, n'est-ce pas garder neuve notre force de vie que de vouloir refaire confiance à celui qui nous a déçus, trompés, trahis? Maurice Zendel nous rappelle cette éternelle jeunesse de celui qui croit en Dieu.
Que cherchons-nous dans les êtres que nous aimons? Leur mystère. S'il n'y avait rien à découvrir en eux, ils ne nous intéresseraient plus.
Oh oui, donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous un esprit nouveau, et alors nous serons ta nouvelle demeure, ton sanctuaire en ce monde.
De temple, nous n'en verrons plus. Jésus-Christ, tout en tous, se rapproche de chacun, présent à toute chose. Aide-nous, Seigneur, à déjà détruire les temples de nos bonnes consciences où nous nous dispensons de rencontrer les hommes. Les temples de nos idolâtries où nous sacrifions de tout cœur au Dieu de la puissance et de la haine. Envoie ton esprit. Notre prière a tant besoin de son amour et de sa vérité pour ressembler un peu à ta louange éternelle. C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Vous pouvez aussi vous abonner aux cassettes ou aux feuillets. Pour 3 mois, 6 mois, 1 an, téléphonez-nous 514-254-8750.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean B. Duchaud.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.